Donc, je suis Jean-François Merle, comme c'est marqué là, et je suis éditeur aux éditions Omnibus qui fête cette année, en 2013, ses 25 ans. Ça ne fait pas 25 ans que je suis chez Omnibus, hein. Je suis depuis 10 ans, mais enfin, j'ai été témoin de la naissance d'éditions Omnibus, puisque je suis issu du commercial. Hein, à l'origine. Bon, par ailleurs, j'ai écrit un roman, j'ai fait de la traduction, j'ai fait pas mal de choses, mais je suis issu du commercial, donc si vous voulez, c'est en tant que commercial que j'ai vécu la naissance des éditions Omnibus. Les éditions Omnibus ont été créées en 88 pour, qui n'étaient pas des éditions à l'époque, c'était une collection des presses de la Cité qui ne s'appelait même pas Omnibus au démarrage, puisqu'elle avait été créée pour abriter les œuvres complètes de Georges Simenon. Hein, c'était ça au départ, trouver un format, qui était ce format de bouquin. Il n'y a pas grand-chose de la collection au bouquin qui existait déjà depuis une dizaine d'années, et pour abriter les œuvres complètes de Simenon, qui était donc une entreprise considérable, qui a été d'ailleurs une entreprise considérable, puisqu'elle a été menée à bien, et les œuvres complètes de Simenon représentent 27 volumes, enfin du moins tout Simenon représente 27 volumes, mais enfin ça s'est fait évidemment en plusieurs années. Enfin, au départ donc, cette collection des presses de la Cité avait été créée pour accueillir Omnibus, Simenon, d'ailleurs toujours du vivant de Simenon puisqu'il est mort en 89. Assez rapidement, c'est-à-dire l'année d'après, la collection a commencé à exister un peu puisqu'elle s'est ouverte au fond des presses. Donc ça restait encore une collection des presses de la Cité, les vieux omnibus, les omnibus de cette époque-là. Il y a le logo des presses de la Cité sur la couverture, il n'y a pas le label Omnibus véritablement. Et donc Omnibus a publié des auteurs du fond des presses, alors essentiellement d'ailleurs des auteurs de policiers comme Mickey Spillane, comme Ellery Queen, Patrick Quentin, William Irish, et puis des auteurs de littérature générale comme Lartegui, hein, qui est quand même un très grand nom, si je puis dire, des presses. Hein. Et voilà. Et de fil en aiguille, la collection s'est ouverte encore un peu plus pour devenir, à ce moment-là, vraiment un éditeur à part entière, et donc accueillir des éditeurs et des textes qui ne viennent pas exclusivement des presses. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a eu un divorce entre Omnibus et les presses de la Cité, mais la maman, qui était les presses de la Cité, a permis à son enfant Omnibus de voler de ses propres ailes. Donc, Omnibus est devenu un éditeur à part entière à partir à peu près des années 90-91, je ne me souviens plus exactement, au moment où, avec Jacques, ici présent, était lancée en particulier la belle aventure qu'avaient été les quatre volumes de Polar années 50, hein, qui étaient donc des anthologies des meilleurs textes parus dans les années dans la collection Un Mystère, la prestigieuse collection Un Mystère des presses de la Cité, celle avec le petit éléphant sur la couverture, qui était l'autre grande collection à côté de la série noire. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'Omnibus, en tant qu'éditeur, a commencé à accueillir des projets qui venaient de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est-à-dire des spécialistes, des anthologistes qui sont venus nous voir ou que nous avons sollicités. Alors, j'ai parlé de Jacques, qui donc, lui, venait de l'extérieur, du groupe, hein, qui était le journaliste et anthologiste, hein, mais qui n'intervenait pas parmi les éditeurs du groupe, mais on a vu arriver des gens comme Francis Lacassin, qu'on connaissait de 10-18, Zilberstein, qu'on connaissait aussi de 10-18, Claude Aziza, qui était éditeur chez Pocket, et évidemment Jacques Boimard, qui dirigeait la collection, qui avait créé et qui dirigeait la collection science-fiction de Pocket, est arrivé, a commencé à proposer des titres de science-fiction. Et donc, en 90, donc finalement assez peu de temps après la création d'Omnibus paraissait le premier volume purement de science-fiction sous la houlette de Jacques Guamard chez Omnibus, qui était Les Portes de l'Éternité de Van Vogt, qui regroupait Le Monde du Nonna et Les Armureries d'Ischer. Avec, comme pour tous les livres qu'a pu faire Jacques, des préfaces très riches, parce qu'on connaît tous cette sorte de génie qu'avait Jacques Guamard pour les préfaces et les présentations d'auteurs. Jacques Guamard va devenir un collaborateur régulier d'Omnibus, au même titre d'ailleurs que les autres anthologistes, puisque assez rapidement, il nous apporte les robots de Asimov en deux volumes qui paraissent en 90 et en 91. Il nous propose aussi de faire des anthologies thématiques, chose qu'on faisait à l'époque chez Omnibus. Hein. Chez Omnibus paraissaient en particulier des anthologies de textes thématiques sur des régions, hein, gens d'Auvergne, gens du Nord, gens de Bretagne, etc., qui marchaient très bien. Et donc cette idée, si vous voulez, d'anthologie dans laquelle le thème vient à réunir des ouvrages et des auteurs venant d'horizons différents. Et Jacques Guamard nous a fait Les Mondes Perdus, l'anthologie des Mondes Perdus, hein, avec Laurie Guillot, qui était un universitaire que connaissait Jacques, qui est un spécialiste du sujet, et un peu plus tard Les Savants Fous, avec Gwenaël Pono, et également un universitaire que connaissait Jacques. C'est aussi à ce moment-là que Omnibus, j'étais pas encore chez Omnibus à l'époque, Omnibus s'est lancé dans cette belle aventure qu'a été les romans de Philippe K. Dick en 4 tomes, hein, qui était la totalité de l'œuvre romanesque de Philippe K. Dick, sauf la trilogie divine qui était à part, et dans lequel Jacques Guamard a fait des préfaces absolument somptueuses, hein, qui vraiment se lisent presque comme un feuilleton de livre en livre et qui explore à chaque fois une facette de Philippe K. Dick. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur Philippe K. Dick, mais ça a été bien dit. Voilà, et il continue ensuite à nous proposer des idées. Ensuite ce sera Barjavel, la très jolie aventure des Star Wars, hein, en 95. C'était au moment où les films, la trilogie Star Wars ressortait sur les écrans remasterisés. Et il y avait un gros investissement qui avait été fait par Lucasfilm pour la relance de ces films-là. Et l'idée est venue. L'idée ne vient pas de Jacques, l'idée venait du PDG des presses de la Cité de l'époque, Georges Lézère, qui est arrivé un beau matin en disant, les gars, il faut absolument faire un Star Wars. On a les romans, les novelisations existent aux presses de la Cité. Et là-dessus, Jacques a rebondi. Pour dire on va faire mieux, on va faire outre la novelisation, on va faire un dossier Star Wars, et lequel dossier Star Wars qui est dans le tome 1 ou dans le tome 2, je ne me souviens plus, enfin les livres sont par ici, qui fait carrément la moitié du livre avec des tas de collaborateurs différents, qui venaient de tous les horizons, qui exploraient tout l'univers de Star Wars, et qui a été un boulot formidable avec Guamard à la baguette, et qui a été un beau succès d'édition. Donc, l'aventure avec Jacques Guamard continue. Ce sera la parution de romans de Silverberg, donc vraiment l'exploitation à la fois du fond français avec des gens comme Barjavel et Boulle, et puis donc l'exploitation également des grands auteurs de l'âge d'or, hein, Asimov, Van Vogt, Silverberg. Plus tard, il y aura Van Vogt. Et c'est aussi à ce moment-là que paraît cette somme que Jacques Guamard avait réalisée avec Roland Stragliati, qu'il avait publié chez Pocket à la fin des années 70, qui était sa grande anthologie du fantastique, dont tout le monde reconnaît à dire que c'est un travail cardinal, que dans le domaine de l'anthologie de nouvelles fantastiques, on n'a jamais fait mieux. 3 volumes, donc 3000 pages de nouvelles qui balayent complètement le genre, rangées par thème, hein, histoire de monstres, histoire de revenants, etc. Malheureusement, Jacques, a été atteint par la maladie. Alors, au début, bon, il le savait, c'est une maladie à progression quand même assez lente, mais de plus en plus, la maladie a commencé à prendre le pas sur, non pas sur l'intellect de Jacques, qui est resté très éveillé jusqu'à la fin, mais physiquement, il commençait à caler, il commençait à avoir des difficultés à écrire, des difficultés à se déplacer, des difficultés à se concentrer, il était fatigué. Et donc la collaboration avec Jacques est devenue de plus en plus, enfin, de plus en plus lointaine. C'était uniquement les difficultés physiques qui faisaient qu'on avait un peu plus de mal. Mais enfin, en attendant, moi, quand je suis rentré chez Omnibus, je suis rentré en 2003 chez Omnibus, donc il y a 10 ans, appelé par Dominique Vincent, la directrice de l'époque. Enfin, on se connaissait très bien, hein, on se connaissait très bien avec Dominique parce que j'avais participé dans mon ancienne vie, donc, hein, j'étais directeur commercial des éditions Solar, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui nous intéresse. Mais enfin, j'étais quand même très très ami avec Dominique Vincent, je suivais bien ce qu'elle faisait. J'avais participé à l'édition avec Jacques, justement, mais on ne se connaissait pas à l'époque. Avec Jacques Baudou de la saga de Chronique de 87e District, qui représente quand même 9 volumes, hein, et pour lequel j'avais complété des traductions qui avaient été coupées à l'époque. J'avais aussi réécrit un bouquin, une traduction dans un des Polars années 50, qui est un roman formidable, qui s'appelait Du sang sur tes mains de Butler, mais dont le narrateur est un demi-sel anglais et qui parlait en argot. Or, l'argot des années 50, c'est plus du tout l'argot d'aujourd'hui. Il fallait vraiment reprendre le texte, parce que quand on parle des Mougins, en parlant des enfants, c'est quand même assez dur je veux dire, dans les années 90, de savoir de quoi il s'agit. Donc j'avais relissé la traduction. Donc, on se connaissait bien, et Dominique Omnibus se développant, a fait appel à moi pour justement m'occuper au sein d'Omnibus, de m'occuper et de développer les littératures de genre, c'est-à-dire le policier, la science-fiction, le fantastique et la littérature populaire dans son acception la plus large, hein. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler avec Jacques Baudou, ici présent, Francis Lacassin, et donc Jacques Guamard, mais que je connaissais depuis longtemps, hein, puisque je suis un ancien des presses, et que Guamard, je le connaissais de Pocket, hein, on avait même lié des relations amicales qui, je dois dire, ont été très, très agréables, hein, quand je suis rentré chez Omnibus, ce qui m'a permis vraiment de plain pied, si vous voulez, de collaborer avec Jacques. Et le premier bouquin qu'on a fait ensemble, c'était un ensemble de romans de Simac. Et je venais de rentrer chez Omnibus, je suis rentré chez Omnibus en juillet, presque immédiatement. Enfin, je me suis occupé de deux bouquins qui étaient à peu près dans cet univers. Le premier, ça avait été les œuvres de Bram Stoker avec Alain Pozzoli, et donc le Simac avec Jacques Guamard, parce qu'il y a beaucoup de Jacques. Jacques Baudou, Jacques Guamard, Jacques Lacassin, ah non, Francis Lacassin. Et donc c'est à ce moment-là que Jacques commençait, en commençant à, je vais pas dire à être en retrait, c'était pas le cas, mais ayant beaucoup moins d'énergie pour travailler que ce qu'il avait pu avoir auparavant, et ben la porte s'est aussi ouverte. Il n'y a pas de collection, il n'y a pas véritablement de directeur de collection chez Omnibus. On accueille des projets avec quand même des référents prioritaires, c'était Jacques, mais Michel Demuth est venu nous proposer un volume thématique, hein, qu'on a appelé Catastrophe, hein, qui était sur des scénarios de fin du monde. C'est un bouquin joyeux, et qui est probablement d'ailleurs le dernier travail qu'a fait Michel Demuth, parce qu'il est mort très peu de temps après. Et donc c'est donc Catastrophe, l'anto de Demuth, est la seule contribution de Michel à... au catalogue. De la même façon, on avait pris langue aussi avec Brussolo, pour on a Un premier volume de Brucelot était paru avant moi, et j'ai suscité, enfin j'ai fait en sorte qu'on fasse un deuxième volume de Brucelot directement avec l'auteur, en considérant que Brucelot est un auteur très original et important dans le domaine des littératures de l'imaginaire, et si l'on peut dire un classique. Parce qu'en fait, arrivé à peu près à cette époque-là, qui est le milieu des années 90, on s'est réellement posé des questions, on s'est vraiment posé, ça a été vraiment un sujet de réflexion entre Jacques Guamard et moi sur finalement qu'est-ce que c'est que la vocation d'Omnibus dans le domaine des littératures de l'imaginaire, sachant qu'on était le seul auteur, le seul éditeur dans ce type de format à faire des ouvrages de science-fiction. Bouquin ne s'était pas intéressé. Hein, et donc, on avait une position relativement originale, si vous voulez, dans le domaine des gros livres, des livres compacts, des livres omnibus, donc, comme disent les Américains, enfin les Anglo-Saxons. Et quand même, bon, on commençait à avoir à ce moment-là, au milieu des années 90, un catalogue assez fourni, vraiment une histoire, hein, puisque ça faisait 15 ans qu'Omnibus publiait des littératures de l'imaginaire. On se rendait compte que les très grands textes de l'âge d'or, les très grands auteurs, c'est-à-dire les classiques de type Asimov ou Barjavel, fonctionnaient très bien, fonctionnaient en fond, mais dès qu'on décrochait un tout petit peu, non pas en qualité, mais en notoriété d'auteur, ben on avait beaucoup plus de difficultés. Et les succès relatifs des ouvrages de Silverberg, de Stimac et plus tard de Sturgeon, hein, alors qui sont quand même des éditeurs, des auteurs considérables, d'autant que le Sturgeon, il y avait un inédit à l'intérieur. Il y avait un texte autobiographique de Sturgeon qui était jamais paru et qui est très très intéressant. Enfin bref, c'est un succès relatif, donc, nous a donné à réfléchir, hein, en se disant, bon, quelle est réellement la vocation et le positionnement et le savoir-faire, hein, d'Omnibus dans le domaine des littératures de l'imaginaire. Bon, la réflexion, c'est que, d'une part, nous sommes un éditeur de classique, nous ne sommes pas un éditeur qui nous adresse, notre production ne s'adresse pas aux spécialistes de science-fiction, mais on s'adresse au plus grand nombre. Et autant les robots d'Asimov, va être lu par quelqu'un qui n'est pas forcément un lecteur de science-fiction, qui va aborder la science-fiction par ces textes-là, autant les textes de Silverberg, voire de Simak, on s'adresse directement aux amateurs de science-fiction. Et là, je ne dis pas que ce sont des échecs, hein, mais on sentait qu'il y avait plus de difficultés. Ça, c'était la première réflexion. La deuxième réflexion était justement sur qu'est-ce qu'un classique. Alors, les classiques, dans l'esprit de Jacques et dans le mien, quand je suis arrivé chez Omnibus, c'était vraiment les grands textes de l'âge d'or. Et ben, à la réflexion, on se disait, ben, peut-être que finalement, chronologiquement, les choses se sont déplacées un peu, et qu'il faut quand même réussir, qu'il faut se demander si des auteurs beaucoup plus contemporains, beaucoup plus récents, comme Vance ou Farmer ou d'autres, ne seraient pas ben, justement des classiques modernes, d'où l'idée de publier la geste de Moorcock, Elric de Moorcock, qui marchait plus trop en poche à cette époque-là. J'en ai discuté avec Bénédicte Lombardo, mais enfin qui avait quand même cet avantage de faire un corpus cohérent. Donc c'était une idée à moi, enfin c'est pas une idée révolutionnaire en même temps de faire Elric en un volume, mais enfin bon, c'est une idée que j'avais soumise à Jacques, et Jacques donc s'est occupé de l'édition. En plus, on avait pris langue directement avec Michael Moorcock, pour une fois que j'avais un auteur vivant en face de moi quand même, c'était quand même pas souvent, hein. Et ça a été un triomphe, ça a très très bien marché, d'ailleurs ça continue à très très bien marcher. On a poursuivi donc certains textes de Moorcock, en particulier Hawkmoon. Et Mais finalement, on se rendait compte que les grandes sagas, les choses évidentes, avaient de toute façon été faites. Et on avait de plus en plus de difficultés à trouver de bons livres à faire. De bons livres à faire encore sous ce format omnibus qui est de réunir des textes ou d'un auteur ou de plusieurs sous un même thème. J'avais quand même ressorti de la naphtaline quand je suis arrivé chez Omnibus, un vieux projet de Jacques qui était resté dans les tiroirs faute de temps de l'équipe, qui était Nouvelle des siècles futurs, qui a été très remarqué par la critique et le public, puisqu'il est épuisé aujourd'hui, qui était une anthologie de nouvelles de science-fiction, de Jules Verne à aujourd'hui, hein, et qui était donc, si je puis dire, le livre, on peut dire, de base pour celui qui voulait connaître le monde de la science-fiction dans toute sa diversité. C'était presque un livre pédagogique, qui a été un joli succès, qui a été un travail épouvantable à faire, parce qu'il y a 80 thèses, 80 demandes de droit auprès des agents, des traducteurs, des éditeurs. C'était assez épouvantable à faire. Mais bon, on a quand même réussi à le faire. Et il a très, très bien marché. Finalement, Jacques Guamard, le dernier livre que j'ai fait avec Jacques Guamard était les chefs-d'œuvre du fantastique, qui en réalité était l'anthologie de l'anthologie du fantastique qu'il avait pu faire et qui était épuisée. Il y avait les trois volumes étaient épuisés. On ne voulait pas les réimprimer parce que quand même on les vendait vraiment très très difficilement. Et je trouvais quand même dommage, si vous voulez, d'avoir cette mine de nouvelles très considérable à notre disposition sans en faire grand-chose. Donc on a fait avec Jacques, c'est le dernier livre qu'on ait fait ensemble, qui était une anthologie de l'anthologie. Il avait fait la sélection et il n'y arrivait, il avait voulu faire la préface, mais physiquement il n'y arrivait plus. Donc il m'a trouvé des préfaciers et on a fait ce livre ensemble. Et ensuite Jacques s'est retiré. Donc voilà, pendant un moment, il n'y a eu personne pour présider aux destinées de la science-fiction. Enfin, j'ai fait quand même un H.G. Wells avec Lacassin. Et jusqu'à ce que je rencontre Sébastien Guillot, qui avait été le premier directeur de la collection science-fiction de Folio, et ensuite avait été éditeur chez Kahneman, où il avait créé et dirigé la collection Interstice, qui s'était arrêté. Et donc Sébastien était libre, il connaissait pas mal le monde de l'édition, il connaît évidemment bien la science-fiction, il connaît bien le fond, il sait comment travaillent les éditeurs. Donc c'était et il avait tout à fait bien compris quelle était la façon de faire d'Omnibus. Donc on s'est assez bien entendu immédiatement, et donc on a décidé ensemble de travailler et de faire en sorte qu'il devienne. Je ne vais pas dire remplacer Jacques, hein, c'est très très difficile de remplacer Guamard, mais du moins de pouvoir apporter, si vous voulez, des projets, de prendre sa succession d'Omnibus, sachant que cette succession en question n'est à aucun moment n'était pas le seul à pouvoir être susceptible de nous proposer des projets dans le domaine des littératures de l'imaginaire. Et c'est donc lui qui a eu l'idée de faire paraître le cycle de Mars de Burroughs, qui est paru l'année dernière, qui était paru à la faveur du film John Carter of Mars, hein, qui était paru en tout début d'année dernière. Donc on avait sorti notre livre en même temps. Il se trouve que le film avait fait pchit, hein. Le film a été sorti vraiment en catimini par Disney, le film avait fait un échec aux États-Unis, donc Disney avait mis son mouchoir par-dessus et l'a sorti vraiment de façon fugace en France, alors que mon Dieu, c'est un film très fidèle, en tout cas très fidèle au roman. Alors moi, j'étais un peu dépité, vous voyez, on sort le bouquin en disant voilà, on va quand même être tiré par le film, et le film reste 15 jours à l'affiche et disparaît. Mais c'est un livre qui a été la meilleure vente d'Omnibus l'année dernière. Il y a eu un phénomène de bouche à oreille, il y a eu je sais pas, enfin bref, en tout cas, le cycle de Mars. À ce jour, c'est vendu à 9 000 exemplaires nets, ce qui est considérable, hein, si on sait quand même que ce sont quand même des ouvrages à 20, 28 euros, c'est pas rien, hein, C'est un investissement. Et c'est un livre qui a connu une carrière très régulière, donc de sa parution en février de l'année dernière à aujourd'hui, et vient de paraître, là, il y a un mois, le volume 2, donc le canon des aventures de John Carter, enfin de Barsoum en tout cas, de Burroughs, est paru dans son intégralité. Et voilà. Et donc, nous en sommes là aujourd'hui en science-fiction, enfin dans les littératures de l'imaginaire en tout cas, avec Omnibus. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont épuisés, évidemment, qu'on n'a pas réimprimés, d'autres ouvrages dont on a perdu les droits. Hein. Par exemple, De Noël a repris les droits de Fondation et l'a publié, Gilles Dumay l'a republié, l'a réédité dans sa collection Lune d'encre, ce qui est. C'est normal, hein. Je comprends, c'est quand même le patrimoine de Noël, c'est normal que ce soit eux qui l'exploitent. De la même façon, les romans de Dick, la très belle édition des romans de Dick, bah, Dick a changé d'agent, les droits sont partis chez Gélu, qui fait d'ailleurs un travail admirable sur la retraduction des romans. Bon, en tout cas, notre édition en attendant est épuisée. Mais ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, à aujourd'hui, on peut se dire que celui qui aurait la totalité des ouvrages de science-fiction qu'a fait paraître Omnibus, ben bon sang, je crois qu'il a une jolie collection de science-fiction à sa disposition, très représentative du genre, et quand même riche en nombre de titres. Voilà, c'était Omnibus. Et les 25 ans. Et si vous avez des questions? Et si vous avez des questions? Oui, monsieur Alterac. Je disais du mal de toi, donc tu as bien fait. Il y a en science-fiction état pur, non. Aujourd'hui, non, on est en réflexion avec Sébastien, on tourne autour de diverses choses, mais il n'y a rien de vraiment établi. On tourne autour de pas mal de projets. Par exemple, avec David Camus et Patrice Louinet, qui sont là. Enfin, qui est là. Il y en a un qui est là. On caresse le projet rien n'est fait encore aujourd'hui, de faire une grosse anthologie Weird Tales, hein, qui semble pourrait être assez intéressant. Bon, c'est un gros travail, hein, donc on prend notre élan. Mais bon, c'est dans les cartons, comme on dit, en fantastique. L'an prochain paraîtra une somme de romans de Sheridan Le Fanu, dont une nouvelle traduction de Oncle Silas par Patrick Remeau, donc quand même une jolie plume, hein, qui est une belle trad. On a aussi en projet, mais bon, il y a des difficultés de droit, donc on le fera très probablement, Gormenghast, le cycle de Gormenghast de Mövenpick. Voilà ce qui est actuellement dans les cartons. Bon, enfin, il y en a un qui est sûr, puisqu'il est lancé, c'est le Sheridan Le Fanu. Oui.
Dans la collection Omnibus, donc, les autres, même issus, comme vous disiez, vous avez une période chez Solar, est-ce qu'il y a eu des échanges, notamment de style, d'orientation, du fiction, avec la collection très classique, d'auteurs assez impressionnants, la fameuse collection d'anticipation, science-fiction, du Flop Noir?
En l'occurrence, Anticipation du fleuve noir, non. Enfin, peut-être que Brussolo, si vous voulez, qu'on connaissait via le fleuve noir, c'est peut-être comme ça qu'il est venu. Mais vraiment, dans le fond, Anticipation du fleuve noir, il y a pas mal de choses. Il y a un projet sur lequel qui vaudrait le coup d'envisager, évidemment, c'est la Compagnie des Glaces de G.G. Arnaud, mais ce serait une entreprise considérable, ce serait 10 volumes, hein, 2000 pages. Et comme par ailleurs le fleuve Noir les avait fait dans des les exploits jusqu'à présent les exploitent de façon très correcte. Enfin, je crois que les premiers sont franchement épuisés aujourd'hui. Mais autrement c'est assez difficile. Bref, non, on a eu du mal à trouver enfin, on n'a jamais véritablement cherché à servir du fonds anti-passion, qui est vraiment un fonds très éclaté, pour faire des omnibus.
Et ce n'est pas non plus tellement l'orientation de la thématique, souvent que justement la situation se mélange en même temps avec une trame, soit de polar, de galactique ou de bataille spatiale.
On pourrait très bien avoir une anthologie space opéra, hein, ou autre chose, hein. Mais ça, c'est un thème, oui. Il y en a eu plusieurs, hein, les mondes du monde perdu, l'Atlantide, savant fou, etc. Tout ça, ce sont des thèmes de science-fiction qu'on a fait. Hein.
La question.
Oui. C'était monsieur d'abord, là. Je vous écoute.
Je ne sais pas, de faire une anthologie sur la RDSF.
La RDSF, oui, évidemment, mais on peut pas l'appeler RDSF. RDSF, c'est vraiment un mot de spécialiste. Vous voyez, si on titre un livre RDSF, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça a du sens pour nous, mais ça n'a pas de sens pour
Moi, je pense à...
le public.
Il y a un livre qui n'a jamais été traduit de Richard Strauss, c'est vraiment...
C'est pas notre métier de faire découvrir des auteurs. C'est pas notre métier. Notre métier, on est des classiques, on réédite. On réédite, et comme je l'ai dit, si vous voulez, l'avantage, notre savoir-faire, notre vocation, c'est vraiment l'exploitation du patrimoine. Alors que dans une anthologie, si vous voulez, on trouve un texte inédit, c'est pas notre boulot, il y a d'autres éditeurs qui le feront mieux. Il y a d'autres éditeurs qui le feront mieux.
Il y en a même, par exemple, Accelerando de Richard Strauss, qui n'a jamais été traduit en français.
Ouais, mais pas par nous.
Pas facile.
Et dernière question.
J'ai une question concernant le bourse.
Ouais.
Est-ce que vous avez continué la...
Je suis en train d'y penser.
Pour Tarzan.
Ah non, Tarzan, non, on en a fait un. Comme d'habitude, Tarzan n'a jamais marché en France. Eh ben, je confirme. Ouais, c'est pas un échec, hein, mais c'est mou, quoi. Donc on se disait, on va continuer, on va peut-être être les premiers éditeurs à terminer enfin en France Tarzan, les 17, je crois, en tout. Oui. Non, aussi, ils sont arrivés à 17, c'est ça. Et Néo est arrivé à 17, et non, je crois qu'on va, malheureusement, on va s'arrêter là. Mais bon, il y a les autres cycles de SF, hein, que je suis en train de regarder, Pellucidar, cycle de Vénus, le cycle. Bah parce qu'elle n'est pas de lui. On a fait vraiment le canon, hein, tout ce qui est paru en volume. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle, effectivement qui était parue en 40, mais qui était ressortie après. Il y a aussi un autre texte qui a été écrit par son fils. Et puis des bricoles qui ont été faites après sa mort et qui ne sont pas considérées comme le canon barsoumien. On a fait le canon. On l'a fait. Comment? Ouais. La trilogie martielle, 5 400 000 signes. C'était un bouquin absolument énorme. Il fait 1 600 pages, il y a des lignes partout. On aurait pu en écrire sur la tranche, on l'aurait fait. Ouais, on l'a réimprimé. Oui, on l'a réimprimé. C'est une vente lente et régulière. Il faut dire, c'est un classique contemporain. Hein. Le cycle de Kim Stanley Robinson. Mars la rouge, Mars la bleue, Mars la verte. Voilà. Terminé les questions. Puni. Merci.
Merci à vous.